France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée par Alexis Lacroix. Chères auditrices, chers auditeurs, on est très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Divers aspects de la pensée contemporaine. D'abord, une très bonne année 2026, puisque nous commençons en beauté, et nous commençons en beauté avec un invité qui est Denis Oliven. Denis Oliven, bonjour.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir en ce premier dimanche du mois de janvier. Vous nous revenez avec un très beau livre qui rencontre d'ailleurs un bel écho partout. Dictionnaire amoureux des Juifs de France, 114 entrées absolument passionnantes dans la diachronie, comme on dit, qui raconte un 2000 ans de présence, de coprésence des Juifs à la France. C'est passionnant, aux éditions Plomb. Il faut se le procurer. On va en parler aussi avec le prisme de la République. Votre livre, je le disais, reparcourt 2000 ans de judaïsme français. Et il s'intéresse en particulier à une question qui nous intéresse beaucoup, c'est logique, au Grand Orient de France, qui est la contribution spécifique de ces Juifs, qu'on a appelés les fous de la République, à la construction, au déploiement, à l'épanouissement de l'idée républicaine. Alors, commençons par un exemple très simple. Pourquoi, avec des personnalités aussi différentes que Raymond Aron, Pierre Mendès France, Léon Blum, le judaïsme français a-t-il produit, Denis Oliven, tant de défenseurs acharnés, on pourrait dire ardents, de la République ?
Eh bien, tout simplement parce que la République a offert d'une manière inouïe dans l'histoire de l'Occident du continent européen, aux Juifs, la possibilité de devenir des citoyens à part égale, à part entière. Les Juifs étaient présents sur le sol de ce qu'allait devenir la France continuellement depuis le 1er siècle en Provence, le 11e siècle en Alsace, le 16e siècle à Bordeaux, même s'ils avaient été expulsés du royaume de France au 14e siècle. Mais à partir de la Révolution, il se passe quelque chose qui est intégralement lié à l'esprit des Lumières et à l'esprit de ce qui sera la République, il se passe quelque chose d'inouï, qui n'existe nulle part ailleurs et qui est la chose suivante. La nation propose aux Juifs d'entrer dans la citoyenneté sans cesser d'être eux-mêmes. Sans cesser d'être eux-mêmes.
C'est l'interprétation d'ailleurs passionnante de Denis Oliven que vous donnez dans votre dictionnaire amoureux des Juifs de France, qui est aussi une histoire de la République, hein, de l'idée républicaine en France, qui préexiste l'émancipation de 91. Mais effectivement, quand les promoteurs de l'émancipation disent « tout aux Juifs » comme individu, rien comme nation, c'est ce qu'ils veulent dire, c'est ça ?
Exactement, c'est la formule sacramentelle qui définit l'entrée des Juifs, mais plus généralement le modèle républicain, tout aux Juifs en tant qu'individu, mais rien en tant que nation, c'est-à-dire rien en tant que communauté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous entrez dans la République, vous, Juifs, dans la nation, et dans l'espace public, vous avez les mêmes droits et vous avez les mêmes devoirs que les autres. D'ailleurs, les Juifs, par exemple, participeront activement à la défense du sol national chaque fois qu'il sera attaqué pendant la Révolution en 1870, en 1914. Donc vous avez les mêmes droits, vous avez les mêmes devoirs. Et ce qui vous distingue des autres, ce qui est particulier, votre religion particulière, est du domaine privé. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on passe des Juifs aux Français de confession israélite, ou aux Israélites. Le terme est forgé au moment de l'émancipation. Pour bien dire, ils sont, comme dira Marc Bloch dans son testament spirituel, tout simplement et avant tout Français. C'est un processus d'assimilation. D'assimilation, le terme a mauvaise réputation de nos jours, mais l'assimilation, quand ce n'est pas l'assimilation à un état religieux, à un pays chrétien, quand c'est l'assimilation à la République laïque, vous ne cessez pas d'être vous-même. Cette assimilation ne vous impose pas. Vous êtes assimilé au sens où vous êtes devenu un citoyen de plein exercice. Mais vous ne cessez pas pour autant d'avoir votre propre religion. Vous n'abandonnez pas ce qui fait votre différence. Simplement, on a beaucoup parlé dans les années 60, à partir des années 70, du droit à la différence. Mais là, ce que la Révolution introduit dans l'histoire de l'Occident et de l'Europe, c'est le droit à l'indifférence.
Alors justement, c'est passionnant, Denis Oliven, vous nous racontez au travers de l'histoire de ces Français juifs, ardemment patriotes, ardemment républicains, c'est le fameux franco-judaïsme, vous nous racontez une certaine histoire de la République, justement, en sa puissance d'assimilation. Et ces juifs auront pour caractéristique, on a cité pêle-mêle, hein, comme ça, il faut donner des noms, Raymond Aron, Pierre Mendès France, mais il y a des gens moins connus, James Darmstadter, les compagnons d'armes de Peggy autour de Bernard Lazare, ils auront tous pour caractéristique de séparer le privé et le public. En privé, ce sont souvent des juifs de l'observance religieuse. En revanche, dans l'espace public, ils ne font pas état de leurs convictions religieuses. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont un exemple de parfaite laïcité ?
Certains sont observants et beaucoup ne le sont plus.
Tout à fait.
Et c'est même ça qui est la laïcité, le modèle laïque français permet cela. Au moment de la Révolution, au moment où l'émancipation se profile, certains dignitaires religieux du monde juif disent « Oh là là, mais vous allez cesser d'être juif ». À ce moment-là, être juif se confond intégralement avec observer de manière rigoureuse la pratique religieuse, la pratique du judaïsme. Et puis, grâce à la Révolution, en quelque sorte, on parviendra à rester juif, à se sentir appartenir à une identité particulière, en étant d'abord français et sans pour autant être religieux. C'est ça qui est assez étrange, c'est que, par exemple, Léon Blum, ou Mendès France, pour prendre deux exemples, ou Georges Mandel, je prends des hommes politiques, qui ont été tous en but à l'hostilité antisémite violente, qui n'ont jamais baissé la garde, qui n'ont jamais cessé d'être juifs, qui ont toujours assumé le fait d'être juifs, avaient pourtant cessé toute pratique religieuse. Ils s'étaient sécularisés, ils s'étaient laïcisés. Donc c'est le merveilleux, si j'ose dire, du modèle républicain. Et d'une certaine manière, c'est intéressant, les juifs sont un symptôme, mais ce qui est vrai des juifs est vrai de tous les autres. Ils sont un marqueur de l'efficacité du modèle républicain, mais ils n'en sont pas les seuls bénéficiaires. Ce qui est marquant dans ce modèle républicain, c'est que vous pouvez pratiquer votre religion, elle est du domaine privé, ou vous pouvez ne plus pratiquer votre religion, mais sans cesser pour autant de vous sentir un lien avec cette origine qui est le judaïsme. Et pourtant, vous êtes d'abord et avant tout français. Parce que vu de l'autre côté, vu du côté des non-juifs, vu du côté de la République, de la société, ce qu'on dit, c'est « je me fiche bien que vous soyez ou pas juif, ça m'importe peu. Si vous êtes de bons Français, de bons patriotes, de bons républicains, vous avez un plein accès à la cité. » J'ai été l'autre jour le long des barrières pour accueillir le cénotaphe de Badinter qui entrait au Panthéon. Il y avait des centaines de Français, la plupart n'étaient pas juifs, ils n'accueillaient pas le juif Badinter. Absolument. Ils accueillaient un Français qui exprimait à leurs yeux l'essence du génie ou le génie français des droits de l'homme et de la liberté. Et donc, il leur importait peu qu'il fût juif. Et c'est exactement ça, l'incroyable modèle républicain français qui n'existera nulle part ailleurs, pas de cette manière en tous les cas.
Alors, c'est ce qui est très intéressant et je dois le dire, émouvant. Pour nos auditeurs et auditrices de France Culture ce matin, cher Denis Oliven, dans votre dictionnaire « Amoureux des Juifs de France » qui paraît aux éditions Plon et qui rencontre encore une fois un grand écho, c'est que vous considérez que ce miracle, d'une certaine manière, se poursuit. Alors il est peut-être la synthèse républicaine est-elle affaiblie, mais il se poursuit. Et vous essayez d'en comprendre les racines, qui sont politiques, nous venons de le dire, mais qui sont également philosophique. Et pour vous, vous citez un certain nombre d'auteurs, on pense notamment à ce grand orientaliste qui s'appelait James Darmstadter, d'origine lorraine, et qui dit qu'il y a une convergence entre l'esprit du monde moderne et la langue de Jérusalem. Il dit la langue du monde moderne est précisément celle de Jérusalem. Vous pouvez nous expliquer convergence au sommet entre l'idée de progrès et d'émancipation et les valeurs fondamentales, les valeurs les plus intimes du judaïsme.
C'est une thèse qui a été en effet celle de ce jeune homme, parce qu'il était encore très jeune et pourtant déjà professeur au Collège de France. Mais c'est aussi la thèse de Renan, par exemple. C'est que la rupture fondamentale qu'inscrit le judaïsme dans l'histoire de l'humanité, le monothéisme, disons, et et la révélation, entre guillemets, mosaïque, se retrouve quelque part dans l'idéal des Lumières et de la Révolution. Il dit « à l'idée du Dieu un correspond l'universalisme républicain. Au messianisme juif correspond l'idée de progrès de la République. » Ça, c'est ce que dit Darmstadter. Ce que dit Renan, c'est « Athènes a inventé la raison et Jérusalem la justice. » Et le programme de Jérusalem se retrouve dans la modernité de la Révolution. Alors, cette analyse est à double entente, parce qu'elle a été aussi utilisée par les antisémites pour dire « Mais voyez, tout ce que le modernisme républicain, c'est la République, c'est la République juive. »
On peut dire que la France juive, hein, d'Édouard de Rumont, en 1886, va concentrer...
Vous démolissez la France éternelle, et bon... par ailleurs, cette thèse est sans doute très discutable, parce que c'est oublier l'apport du christianisme, c'est oublier l'autonomie des Lumières, de l'invention des Lumières. Donc cette thèse est discutable, mais elle explique en tout cas une chose qui est frappante, c'est que les Juifs seront majoritairement inscrits, émancipés par la République, ils seront des grands défenseurs de la République. Ils seront républicains d'abord, socialistes ensuite, communistes même au-delà. Donc l'idée d'émancipation du genre humain que porte dans ses flancs la République entre en résonance assez certain avec les Juifs, d'abord parce qu'ils ont été une minorité persécutée, et ensuite parce que le message de leur foi entre en résonance avec cette idée.
Alors nous commençons avec vous l'année 2026, cher Denis Oliven, Dictionnaire amoureux des Juifs de France aux éditions Plon. C'est un des livres événements de l'année, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes ici dans le cadre de l'émission Divers aspects de la pensée contemporaine et nous savons que dans quelques semaines entrera au Panthéon un homme qui y est attendu, qui est Marc Bloch, le grand historien Marc Bloch. Et je vous lis juste un très court extrait que vous reproduisez dans la notice, très belle notice, que vous lui consacrez, de son testament. « Étranger à tout formalisme confessionnel, comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti durant ma vie entière, avant tout et très simplement français, etc. » etc. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à mes sentiments le moindre obstacle. Au cours des deux guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France, du moins puis-je, en toute sincérité, me rendre témoignage, je meurs comme j'ai vécu en bon français.
En vérité, au cours des deux guerres, lui, ça sera donné de mourir puisqu'il sera fusillé pendant la résistance. Oui, c'est exactement ça ce que le franco-judaïsme, mais au-delà du franco-judaïsme, c'est une définition de l'idée républicaine. Vous savez, il y avait ce terme du XVIIIe siècle, la grande patrie, la petite patrie. La petite patrie, c'est vos particularismes, vous êtes régionaliste, provençal, vous êtes juif, vous êtes libre penseur, franc-maçon. Vous, pas moi. mais ça, c'est votre particulier. C'est votre particulier. Dans la sphère publique, vous êtes indiscriminé. Vous êtes indifférencié. La République ne connaît que des citoyens libres et égaux, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur ethnie. Et c'est cet incroyable modèle que cette histoire des Juifs exprime, et qu'il faut que nous préservions tous ensemble. Moi, c'est la seule leçon que je tire des événements que nous connaissons, de la montée de l'antisémitisme, de l'importation en France de conflits étrangers, etc., etc. Soyons attentifs à protéger ce modèle qui est si remarquable. Bien sûr, il faut l'accommoder au temps nouveau, il est plus ouvert à la différence qu'il ne l'était, mais tout de même, gardons ce principe fondamental qui est essentiel à notre vie commune.
Alors, vous revisitez 2000 ans d'histoire de France, au travers de ce dictionnaire amoureux des Juifs de France, cher Denis Oliven, c'est passionnant. On comprend d'ailleurs votre émotion, vous aimez ce pays, d'ailleurs vous l'avez dit à de nombreuses reprises, il a été très, très aimable aux Juifs qui ont voulu le rejoindre, qui souvent venaient d'ailleurs d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, d'Allemagne, comme votre famille au départ. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, selon vous, de ce miracle de l'assimilation dans une France en proie, vous l'avez dit, à l'antisémitisme, aux passions xénophobes, au morcellement communautariste, voire à l'explosion parfois des séparatismes dans certains quartiers?
D'abord, j'observe que ce racisme ou cet antisémitisme est extrêmement limité dans l'opinion, en vérité. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Dans son écrasante majorité, la France n'est pas raciste, n'est pas antisémite. Donc on a des phénomènes de résurgence actuellement sous un visage nouveau qui n'est pas l'antisémitisme traditionnel. Il faut les combattre, mais on les combat avec d'autant plus de facilité que nous ne sommes pas dans le climat que la France a connu au moment de l'affaire Dreyfus, ou dans les années 30 contre Léon Blum, et pourtant à chaque fois, elle a triomphé. La République a triomphé et les antisémites ont été battus.
Je vous interromps parce que c'est passionnant. Vous pensez qu'on a encore des instruments dans les loges, mais aussi en dehors des loges maçonniques, pour défendre la raison commune, pour défendre le sens commun contre l'irrationalisme?
Moi, je connais pas les loges, mais j'imagine qu'elles peuvent être efficaces. Oui, je crois que l'effort que nous devons faire collectivement, c'est de nous souvenir, vous savez, c'est comme l'air qu'on respire. On ne s'aperçoit pas de sa qualité tant qu'il est là. Et quand vous en êtes privé, tout à coup, vous comprenez qu'il vous manque quelque chose. On respire l'air de la République. Et cet air fait que nous vivons tous ensemble, les uns avec les autres, en acceptant les différences sans les rendre ostentatoires ou hostiles aux autres. En témoignant d'une certaine discrétion dans la manière dont nous assumons nos différences. Et ça, je crois que c'est une règle de vie commune que nous devons préserver absolument. C'est en tout cas l'enseignement que je tire de ces années.
Si vous deviez exprimer un vœu, justement, pour nos auditrices, nos auditeurs de France Culture, en ce tout début d'année 2026, quel serait-il, Denis Oliver ?
C'est évidemment le vœu de la Concorde. Mais moi, je chéris le rêve d'une déclaration des droits et des devoirs, par exemple, que signeraient tous ensemble les différentes religions de ce pays, dans lequel elles renouvelleraient leurs vœux en faveur de la République, un peu comme Napoléon, je le raconte dans le livre, l'avait fait avec les Juifs en réunissant ce qu'il avait appelé le Grand Sanhédrin. Je pense qu'il faudrait que les différentes confessions de ce pays se réunissent pour dire voilà nos droits, voilà nos devoirs, et voilà pourquoi nous mettons la République et sa loi commune au-dessus de nos intérêts ou de nos lois particulières.
Puissiez-vous être entendu, cher Denis Oliven, on vous remercie en tout cas chaleureusement de nous avoir consacré un petit peu de temps ce dimanche matin de janvier 2026, Dictionnaire amoureux des Juifs de France aux éditions Plon. À bientôt.
Merci à vous.
Bon dimanche.
Merci.
C'était divers aspects de la pensée contemporaine, le Grand Orient de France, avec Daphné Leblon à la réalisation, Noé Chabanne à la technique et l'indispensable Claire Poinsignon à la coordination éditoriale. Bon dimanche à toutes et tous, et au mois prochain.